La réhabilitation des émotions. En 1994, le neurologue Antonio Damasio publie un ouvrage important, L'erreur de Descartes. Il y rapporte le cas de plusieurs patients souffrant d'un type de lésion cérébrale bien spécifique, en l'occurrence dans le cortex préfrontal ventromédian. Les conséquences en sont surprenantes. Alors que ces individus conservent leur habileté intellectuelle, ils perdent tout ou partie de leur capacité à ressentir des émotions. Les voilà devenus, malgré eux, d'authentiques homo economicus, des êtres parfaitement rationnels dont les raisonnements ne peuvent plus être contaminés par les affects. Or, que constate Damasio ? Dans les faits, c'est tout le contraire qui se produit. La capacité de ces patients à prendre des décisions est gravement perturbée. Ils ne parviennent plus à agir conformément à leurs propres intérêts, sont incapables de faire des choix logiques et judicieux, voire de s'organiser au quotidien, à tel point que Damasio parle d'une forme de sociopathie. Ce qui est passionnant, c'est la conclusion qu'il en tire. D'après lui, il est illusoire de prétendre séparer raison et émotion. L'une ne va pas sans les autres. Nos affects sont indissociables de notre capacité à prendre des décisions. Dans tout calcul rationnel, il y a une part d'émotionnel. Ou, comme il le dit lui-même, l'expression et la perception des émotions font sans doute partie intégrante des mécanismes de la faculté de raisonnement. Les travaux d'Antonio Damasio ont eu une profonde influence sur les sciences humaines et sociales, à tel point que l'on a pu parler, à partir des années 1990, d'un véritable tournant émotionnel. Du point de vue de la rhétorique, ces résultats constituent effectivement un apport fondamental. Ils démontrent que le pathos n'est pas un simple outil, mobilisé de temps à autre par l'orateur pour parvenir à ses fins. Il est, au-delà, une dimension intrinsèque de la conviction. À des degrés divers, bien sûr, sous des formes et avec des implications distinctes, nous y viendrons. Mais même l'argumentation la plus aride s'accompagne au fond d'une réaction émotionnelle. L'intérêt, l'ennui, la surprise, la satisfaction, l'excitation. En retour, ces affects viennent interagir avec la prise de décision. Il semble donc bien qu'il soit impossible d'emporter l'adhésion sans, dans le même temps, susciter des émotions. Il nous faut toutefois reconnaître qu'il subsiste ici une forme d'ambiguïté. Dans le langage courant, quand on parle d'appel aux émotions, c'est généralement pour faire référence à des procédés beaucoup plus explicites. Un discours politique déversant la peur, un spot publicitaire inondant de désirs, une campagne humanitaire submergeant sous la honte. Voilà ce que l'on a coutume de désigner sous le terme de pathos. De ce point de vue, il est effectivement nécessaire de tracer une distinction entre deux éléments. D'une part, la dimension émotionnelle, qui est inhérente à la prise de décision et que l'on retrouve donc dans toute entreprise de conviction. Et d'autre part, les émotions, qui sont sciemment suscitées par les oratrices ou les orateurs. Ce sont elles qui nous feraient irrémédiablement basculer du côté obscur de la persuasion. Or, nous voudrions défendre l'idée inverse. Non seulement émouvoir un auditoire ne nous semble pas en soi critiquable, mais cela nous paraît même parfois nécessaire. 2. Émouvoir pour faire prendre conscience. Commençons par rappeler des évidences. Les êtres humains ne sont pas des machines. Nous ne percevons pas le monde avec le regard surplombant d'un ordinateur. La réalité elle-même ne se réduit pas à une suite de données alignées dans un tableau. Pour comprendre ce qui nous entoure, notre raison ne suffit pas. Nous avons aussi besoin de nos émotions. 2 septembre 2015. Le monde entier découvre, horrifié, la photo d'un corps échoué sur une plage de Turquie, celui d'un petit garçon en t-shirt rouge et pantalon bleu, le visage enfoui dans le sable, les cheveux encore léchés par les vagues. Il s'agit d'Alan Kurdi, 3 ans. Fuyant la guerre civile en Syrie, sa famille a tenté de gagner l'Europe en traversant la Méditerranée sur un bateau pneumatique. Le navire de fortune a fait naufrage. Seul le père en a réchappé. Déchirant, le cliché est massivement partagé sur les réseaux sociaux. Dans les jours qui suivent, sous la pression des opinions publiques, les pays de l'Union européenne se résolvent à prendre une série de mesures favorisant l'accueil des réfugiés. Soyons clairs, que ces décisions aient été bonnes ou mauvaises, appropriées ou démesurées, nécessaires ou délétères, est ici hors de propos. De la même manière, le fait que les États concernés aient largement fait machine arrière dans les mois qui ont suivi n'est pas la question. Ce qui importe, c'est de remarquer qu'une seule image a suffi pour provoquer une réaction internationale. Pourtant, la situation n'était pas nouvelle. Depuis le début de l'année 2015, l'aggravation du conflit syrien avait poussé des centaines de milliers de migrants à tenter de rejoindre l'Europe. On estime que plus de 2500 hommes, femmes et enfants avaient déjà trouvé la mort engloutis par les flots. Les associations humanitaires tentaient d'alerter les peuples et les gouvernements européens sur l'ampleur du drame. En vain. Malgré les arguments, les preuves, les chiffres, rien n'y faisait. Les corps s'accumulaient. Jusqu'à cette photo. Alors que la raison semblait ne pas avoir de prise, c'est une émotion mondiale qui, un temps, a fait bouger les lignes. Quoi qu'on en pense sur le fond, du point de vue de la rhétorique, cet exemple est riche d'enseignements. Il nous montre que, pour emporter l'adhésion, s'adresser à la raison n'est pas toujours suffisant. Lorsqu'une situation nous est trop étrangère, elle nous devient inconcevable. Les données, les statistiques et même les faits ne sauraient épuiser la réalité dans toute sa complexité. Comprendre rationnellement est une chose, réaliser pleinement en est une autre. Comme l'a montré Antonio Damasio, pour forger notre jugement, nous avons besoin à la fois de notre intellect et de nos affects, sans quoi nous ne sommes rien d'autre que des monstres froids. Voilà pourquoi il ne serait ni juste ni judicieux de rejeter en bloc les émotions du côté de la persuasion ou de la manipulation. Parfois, émouvoir notre auditoire sera utile et même nécessaire si nous voulons lui permettre de prendre conscience de la situation que nous évoquons. Cela étant dit, l'exemple que nous venons de développer est au mieux un cas particulier. L'adhésion y a été obtenue par le biais non d'un discours, mais d'une photographie. Or, une image n'est pas une argumentation, n'est-ce pas ? Certes. Mais quand bien même, ce qu'il a été possible de produire avec un cliché, nous pouvons également y parvenir au terme de quelques phrases ciselées. Étude de cas. Je suis responsable d'un syndicat étudiant en pleine épidémie de coronavirus. Après des mois de confinement, entre les cours à distance et la raréfaction des petits boulots, la jeunesse est frappée par une grave crise sociale. Pour faire pression sur le pouvoir politique, qui tarde à réagir, je décide d'alerter les médias. Je décroche une première interview sur une chaîne d'information. En plateau, je déploie mes arguments. Il faut prendre la mesure de la crise. On observe une hausse des demandes d'aide alimentaire de plus de 150%. Nous voyons arriver des jeunes en situation de dénutrition. Le nombre d'étudiants souffrant de dépression a été multiplié par 3. Il est urgent de faire quelque chose. La présentatrice m'écoute en hochant la tête. Les autres invités réagissent mollement. Dans les jours qui suivent mon intervention, rien ne se passe. Je finis par être invité sur une autre chaîne. Au bord des larmes, je parle sans réfléchir. Mais enfin, que voulez-vous que je vous dise ? Les jeunes n'arrivent plus à se nourrir. Pendant les distributions de paniers repas, certains confient ne pas avoir mangé depuis 2 jours. Nous avons des centaines d'appels à l'aide d'étudiants isolés, sans contact, sans activité, qui ont des idées suicidaires. Et certains, hélas, qui passent à l'acte. Combien faudra-t-il encore de jeunes défenestrés, pendus ou immolés avant que le gouvernement ne se décide à agir ? Quand je rentre chez moi le soir, j'apprends que mon intervention a déjà été relayée plusieurs milliers de fois sur les réseaux sociaux. Le lendemain, la ministre de l'Enseignement supérieur annonce qu'elle va prendre une série de mesures exceptionnelles. Décryptage. Nous venons pourtant de dire, par 2 fois, exactement la même chose. Les arguments sont identiques. Seul change leur formulation. Dans le premier cas, nous nous sommes appuyés sur des données aussi rigoureuses que froides et dépassionnées. Intellectuellement, tout le monde saisit ce qu'elles signifient. Mais faute de se les approprier émotionnellement, il est difficile de concevoir l'étendue du drame qu'elles recouvrent. Dans le deuxième cas, nous nous contentons de laisser parler notre cœur et de décrire la situation en des termes que chacun peut se représenter. Ce faisant, nous déployons, sans forcément le savoir, de nombreux procédés émouvants. Gorgés d'affect, notre intervention suscite une prise de conscience et emporte la conviction. En rhétorique, l'utilisation des émotions n'est donc pas nécessairement condamnable. Au contraire même, cela s'avère parfois une nécessité pratique autant qu'une exigence éthique. Lorsque la situation dont nous parlons est trop étrangère à notre auditoire, les affects ne sont pas seulement un outil pour provoquer l'adhésion. Ils sont aussi, plus profondément, la clé ouvrant sur une véritable compréhension. Voilà pourquoi, dans cet ouvrage, nous refusons fermement la distinction entre convaincre et persuader. L'idée même qu'il y aurait une conviction rationnelle noble et une persuasion émotionnelle ignoble est une absurdité. Dans toute argumentation, il y a une part d'émotion plus ou moins notable. Le pathos est bien une dimension indissociable de la rhétorique. Est-ce à dire dès lors que jouer sur les affects est toujours légitime ? Ce serait aller un peu vite en besogne. Car si le lien entre émotion et manipulation est tant présent dans les représentations, ce n'est pas totalement sans raison.